Et c'est le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la mort de 3 soldats au Mali à 3 jours du réveillon du Premier ministre Jean Castex prévu au Tchad aux côtés des troupes françaises. C'était la première fois qu'ils étaient déployés au Mali dans une région frontalière avec le Niger et le Burkina Faso. Les autres titres, Hélène.
Conseil de défense aujourd'hui face aux chiffres de l'épidémie inquiétant dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté notamment. Une marée de foulards verts en Argentine pour la légalisation de l'avortement. Le Sénat se prononce et cette fois les féministes ont de quoi espérer. Et puis un rappeur dont raffolent les jeunes, c'est Zola, 21 ans seulement, déjà deuxième album et ce sera à la fin du journal.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, interview exclusive, la seule accordée sur un média audiovisuel français. La championne du monde de foot américaine, très engagée politiquement, Megan Rapinoe sera à ce micro. Son autobiographie intitulée One Life est sortie aux éditions Stock. Et puis à 8h20, Brexit, dans le grand entretien de la matinale, on détaille avec nos deux invités ce qu'il y a dans cet accord qui entre désormais en vigueur dans 3 jours. La députée européenne et ancienne ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, et la maire de Calais, Natacha Bouchard. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Ils avaient 21, 23 et 28 ans. 3 soldats français sont donc morts hier au Mali, déployés pour la première fois au Sahel. Ils étaient en mission de ravitaillement. Leur blindé a roulé sur une bombe, Nathalie Hernandez.
La mission de ravitaillement n'était pas très longue. Le convoi d'une bonne vingtaine de véhicules ne devait parcourir que 90 km entre les deux villes, d'Ombori et de Gossi au sud Mali. Mais les 3 jeunes soldats n'ont malheureusement pas pu éviter l'engin explosif improvisé déposé sur leur route, un engin qui a fait sauter leur véhicule blindé. Selon l'état-major des armées, l'équipe médicale qui escortait le convoi n'a rien pu faire pour sauver les 3 militaires qui effectuaient tous, pour la première fois, un mandat au Sahel. Âgés de 21 ans à 28 ans, les 3 hommes appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Le président de la République et la ministre des armées ont aussitôt fait part de leur émotion à 3 jours du voyage au Tchad du Premier ministre, Jean Castex, qui doit justement s'entretenir avec le commandement des forces Barkhane.
48 soldats sont morts au combat 7 ans après l'arrivée des troupes françaises dans la région. Plus de 5000 hommes sont toujours déployés au Sahel. Le chef d'état-major des armées françaises était au Niger il y a quelques jours pour saluer succès tactique et une amélioration de la situation sécuritaire de la zone. Alors que dans le même temps, la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat annonce un débat sur l'opération Barkhane en février prochain. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h03. On suit toujours de très près les chiffres de l'épidémie de Covid-19.
Avec la crainte de voir les contaminations flamber après les fêtes, les hospitalisations sont en hausse, plus de 24 000 sur toute la France. Les chiffres ne sont pas bons dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, à Nice. Et un nouveau conseil de défense se tient aujourd'hui en visioconférence, plus pour un point d'étape que pour décider de nouvelles restrictions. D'ailleurs, Maxence Lambrecq, à ce stade, aucun compte-rendu n'est prévu.
Cela reste le meilleur indicateur, la preuve que le gouvernement ne compte pas reconfiner ce soir telle ou telle région. Si c'était le cas, le Premier ministre dans les Pyrénées cette semaine serait rentré à Paris. Là, aucun point presse n'est prévu, rien à l'agenda du ministre de la Santé ou du porte-parole du gouvernement. Il est possible que les préfets gagnent à l'issue une petite marge de manœuvre supplémentaire, que les ARS reçoivent de nouvelles consignes, mais il s'agit d'abord d'un point d'étape détaillé. Sur Matignon, il faut que le président ait le ton juste. Juste pour ses vœux jeudi soir, ajoute un de ses conseillers. Doit-il féliciter les Français ou les responsabiliser davantage? Emmanuel Macron donnera le ton du début d'année, mais attendra le conseil de défense de la semaine prochaine pour les décisions concrètes, une fois que les vacances seront terminées et le bilan de Noël précisé. Au sein du gouvernement, personne ne semble pour l'instant sérieusement envisager un troisième confinement, mais le fait que l'hypothèse circule nous arrange, confie un communicant. Cela pourrait en calmer certains avant le réveillon du 31.
Un nouveau confinement localisé n'est pourtant pas à exclure pour certains élus, notamment dans le Grand Est. La question doit se poser pour le président de région. À Mulhouse, le nombre de patients Covid a doublé en 2 semaines. Les services des urgences de Troyes, Verdun, Nancy sont sous tension. C'est à l'hôpital de Nancy, justement, que la députée France Insoumise, Caroline Fiat, a repris du service, aide-soignante de métier. Elle fait partie de ces politiques qui ont renfilé la blouse et dont on fait le portrait tous les jours. jours cette semaine avec Marc Potvin.
La première fois en mars, Caroline Fiat fait les démarches pour rejoindre la réserve sanitaire.
J'attendais tel un lion en cage que la réserve sanitaire m'appelle, ce qui n'arrivait pas.
Alors la députée force le destin lors d'une visioconférence sur la crise sanitaire.
Le directeur du CHU de Nancy et l'ARS disaient qu'il manquait de personnel et donc en direct, je leur ai donné ma candidature.
Quelques jours plus tard, elle rejoint l'hôpital de Nancy pour s'occuper de malades du Covid-19 en réanimation. Elle est d'abord incognito.
Au bout d'une semaine et demie, deux semaines, il y a eu une nuit calme. On m'a dit, mais comment ça se fait? Ça faisait 3 ans que t'étais plus soignante, tu faisais quoi? Et là, je leur ai dit que j'étais députée. Ils l'auraient su dès le départ, ils auraient peut-être eu une vision différente de moi, ce que je voulais pas. J'étais vraiment là en tant qu'aide-soignante.
Caroline Fiat revient prêter main forte à l'hôpital de Nancy en novembre dans un autre service de réanimation. Cette fois-ci, elle est reconnue. La médiatisation est passée par là. Les journées sont physiquement épuisantes. Moralement, en revanche...
Ça fait du bien. J'embauche à 19h, je débauche à 7h le matin et vous savez ce que vous avez fait pendant 12h. Je ne dis pas que les députés ne font rien. On travaille beaucoup, mais on n'a pas un résultat au bout de 12h.
La députée insoumise n'en a pas fini avec l'hôpital de Nancy. Elle n'exclut pas d'y retourner pour apporter son aide s'il y a une troisième vague.
Pour l'éviter, le gouvernement compte sur la campagne de vaccination. Un fichier tout juste créé regroupera les données des personnes vaccinées pour surveiller les éventuels effets secondaires. L'objectif, c'est 1,5 million de personnes soient vaccinées en février. On est loin de la campagne éclair menée en Israël, par exemple, 150 000 vaccinations quotidiennes, ou même aux États-Unis, 1 million de piqûres déjà. En Espagne, c'est un fichier qui dérange. Les autorités tiendront registre des personnes refusant de se faire vacciner. Il s'agit de comprendre les causes de ce refus, défend le gouvernement, pour améliorer ensuite les campagnes d'information. Il ne sera pas rendu public, mais partagé tout de même avec d'autres pays européens.
L'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Argentine ce matin.
Toute proche de faire voler en éclats les derniers tabous sur l'avortement. Une loi légalisant l'IVG passe au Sénat dans quelques heures, après avoir été approuvée par les députés. Historique, car il y a 2 ans, le texte avait été rejeté, mais le contexte politique a changé et les militantes féministes au foulard vert mettent la pression dans la rue depuis des semaines, mais le pays est profondément divisé. C'est le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Dans cette manifestation, après l'approbation du texte par les députés, les militantes au foulard vert, symbole de la légalisation de l'IVG, chantent leur joie et leur espoir de voir dans leur pays l'avortement légal après 15 ans de campagne. Laura, 28 ans.
On a l'espoir que cette année si difficile soit compensée par une fin merveilleuse qui serait l'extension des droits pour des millions de femmes. Et pas seulement pour nous, mais aussi pour nos mères, nos grands-mères, toutes ces générations antérieures qui ne pensaient même pas qu'elles pouvaient lutter pour un tel droit.
Mais à l'image du Sénat, l'Argentine est divisée en deux. Dans une société où les 3/4 de la population sont catholiques, les anti-IVG en bleu ciel sont tout aussi virulents que les verts. Mirta, 82 ans, à la sortie de l'église San José de Flores, où le pape François était curé.
Ces femmes dorment avec n'importe qui. Et après, c'est l'État qui doit leur payer un avortement. Ici, il n'y a pas d'éducation. Leur foulard vert, elles peuvent se le mettre où je pense. Qu'elles ne tombent pas enceintes, c'est tout.
Le débat au Sénat s'annonce très serré. Il pourrait même y avoir un match nul. Dans ce cas, ce serait à la présidente du Sénat de trancher, présidente qui n'est autre que Christina Kirchner, qui a déjà annoncé qu'elle voterait en faveur de la légalisation. Le vote est attendu dans la nuit. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
C'est un vaste plan social qui s'annonce encore dans le secteur aéronautique en France. Le groupe AK Technologies pourrait supprimer jusqu'à 900 emplois, essentiellement sur son site de Blagnac, près de Toulouse. Une réunion avec les syndicats est prévue mi-janvier. L'indemnisation des chômeurs en fin de droit sera de son côté prolongée jusqu'au 31 janvier, un mois de plus. Ça vient de paraître au journal officiel, alors que les chiffres du chômage se dégradent. 34 000 demandeurs d'emploi de plus en novembre, selon la DARES, hier. Mais en ces périodes de fête, il y a un secteur qui se porte bien, celui des commerces de bouche. Évidemment, les Français se font plaisir, ils ont bien raison, et ça se voit à Paris avec Delphine Evenou.
Dans ce magasin du nord de Paris, bouteilles de vin et de champagne côtoient saucisson corse et autres douceurs. Cécile vient chercher de quoi garnir sa table du 31.
Année pourrie, donc on a envie de se faire plaisir là où on peut encore se faire plaisir. Et effectivement, on a plus les moyens, puisqu'on ne va plus au théâtre, on ne va plus au cinéma, on ne va pas au concert. On pourrait l'économiser, mais on s'autorise plus ce genre de petit plaisir.
Yann Laurent, le gérant du 38 Gourmet, le constate dans sa caisse.
C'est à peu près 20-25% en plus de chiffre d'affaires par rapport au mois de l'année dernière.
Et dans sa boutique, c'est toute l'année qui a été fructueuse.
Quand on voit les secteurs qui sont sinistrés, ça nous fait drôle, quoi, de voir comment nous, on arrive à s'en sortir, voire mieux. Nous, on est un peu à contre-courant de la situation.
Des cavistes heureux, il y en a partout en France pour les fêtes, confirme Patrick Jourdain, président du syndicat des cavistes professionnels et propriétaire de 3 boutiques dans l'Allier et le Puy-de-Dôme.
Le mois de décembre marche fort. On serait sur l'ordre de 10 à 15 euros supplémentaires en panier moyen.
Mais le bilan restera mitigé.
Tous ceux qui travaillent qu'avec des particuliers, eux, vont plutôt être positifs. Par contre, ceux qui vont souffrir un petit peu avec un petit peu de négatif, c'est ceux qui travaillent avec les restaurateurs et ceux qui travaillent beaucoup le cadeau d'entreprise.
Les grands perdants de 2020 sont les viticulteurs avec des exportations en baisse de 18% au premier semestre.
Reportage Delphine Evenou. Les véhicules les plus lourds vont bien coûter plus cher, mesure du projet de loi de finances, validée par le Conseil constitutionnel alors qu'elle faisait débat parmi les parlementaires et même parmi le gouvernement. Le ministre de l'économie craignant un impact industriel. La mesure prévoit la taxation des voitures de plus de 1800 kg hybrides et électriques sont exemptés. Et puis la tempête Bella, 8 départements restent en vigilance orange, 10 000 foyers encore privés d'électricité, en Corrèze et en Auvergne surtout. Et puis si le temps le permet, aujourd'hui l'opération anti-pollution commencera à Ajaccio en Corse après l'échouage d'un remorqueur dont les amarres ont cédé hier avec la tempête.
C'est le nouveau phénomène du rap français.
Zola, 21 ans, écrivain des temps modernes, pourrait-on dire. Son deuxième album Survie vient de sortir et c'est déjà un très gros succès, Mathieu Culeron.
Dans la galaxie de la jeune génération du rap français, Zola tient une place particulière. Son premier album sort en 2019, devient disque d'or la semaine de sa sortie et finira disque de platine. À 20 ans, le succès a été fulgurant.
Un disque de platine, c'est super gratifiant. C'est aussi super gratifiant d'avoir fait une super bonne tournée. C'était sold out partout. Forcément, quand on parle d'une signature, à ce moment-là, je me suis dit que c'était sérieux. Parce que j'avais jamais travaillé, moi j'étais à l'école. Bah, je me suis dit que c'était la voie que j'allais prendre. Il y avait des gens qui faisaient des freestyles, par exemple, autour de moi. J'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit, c'est pas mal. Pourquoi pas le faire?
Parmi les premiers titres à sortir de ce nouvel album, le morceau Wow, mais c'est le public via les réseaux sociaux qui choisira le titre phare de ce nouveau disque Survie.
On a sorti Wow comme ça, on s'est pas dit que directement après il y allait avoir l'album qui venait, tu vois. Peut-être qu'on aurait pu sortir un autre son qui aurait porté l'album, mais non. Ou en tout cas, c'est pas le single de l'album. C'est un morceau parmi tant d'autres.
Zola sera le rappeur à suivre dans les années qui viennent. Un rap dur, sans concession, de rue, compatible avec le marché américain. Bref, l'une des valeurs sûres du rap français.
Le négro prêt à tout pour faire du cash. Maman kiffe que c'est ça pour faire du cash. Le négro souffre à moi, mais il le cache. Debout sur la moto, j'oublie le casque.
Zola, on le verra au festival Beauregard normalement en juillet prochain, sous réserve, et on l'espère, que les festivals se tiennent normalement, évidemment.
Évidemment, merci Hélène Philippe.